Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'Entreprendre. Pourrions-nous imaginer un monde sans abeilles? Le chiffre est inquiétant. En 25 ans, 75% des insectes volants ont disparu de la surface de notre Terre, principalement en cause l'usage intensif des pesticides. Pour sauver les abeilles, pour les protéger, Christian Lubat a imaginé Biguard. C'est un outil numérique destiné à surveiller les ruchers. Bonjour Christian Lubat.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre pour Le Goût d'Entreprendre. Vous êtes le gardien des ruches, un gardien numérique en quelque sorte, et connecté. Alors pour faire simple, vous avez réussi donc à connecter les ruches. Première question, Christian, pourquoi les ruches, pourquoi les abeilles?
Alors, pourquoi les ruches, pourquoi les abeilles? Parce que tout peut se connecter, c'est le fond de votre question. La première chose, c'est que ça a un sens. Parce que la filière apicole rencontre de grandes difficultés. On a tous entendu parler de l'interaction avec les pesticides, mais il y a également des virus, des problèmes sanitaires, donc des parasites extérieurs, le frelon asiatique, on en a parlé, et également, et il ne faut pas le minimiser, une baisse de la biodiversité dans certaines grosses surfaces de notre pays.
Ouais, ouais.
Voilà. Donc aujourd'hui, les apiculteurs, pour produire le miel, ils doivent déplacer leurs ruchers pour les mettre face à différents types de fleurs, de façon
D'accord.
à produire des miels de qualité différentes qui sont au goût des consommateurs.
Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années?
Alors, c'était également le cas. La difficulté qu'ils rencontrent maintenant, c'est qu'il faut être beaucoup plus fin et beaucoup plus rapide pour intervenir, pour aider les abeilles, pour qu'elles arrivent à survivre.
D'accord, voilà. D'accord, ok. Alors, vous nous dites qu'il y a urgence à aider les abeilles. Elles ont besoin de nous, on a besoin d'elles, elles ont besoin de nous.
Alors, la totalité. Alors, en premier, on a besoin d'elles. Il faut commencer par ça et être assez humble sur ce point de vue. 80 à 85% des fruits et légumes nécessitent en fait une pollinisation animale, donc on va dire par les insectes. Donc les abeilles domestiques y participent, les abeilles sauvages aussi, il ne faut pas l'oublier, mais la seule chose qu'on est capable de vraiment mesurer, c'est les abeilles domestiques, puisqu'elles restent, elles nous font le plaisir de rester dans l'hôtel qu'on leur propose, voilà, dans cet hôtel-là. Voilà, alors que les insectes sauvages, ils sont dans les haies, ils sont dans la terre, ils sont dans les troncs d'arbres.
Mais eux aussi sont menacés.
Exactement. De la même façon, tout ce qu'on mesure comme réduction de population sur les abeilles domestiques, eh bien, on peut imaginer que c'est exactement la même chose, voire pire, dans certains cas, sur les insectes sauvages.
Oui, je vous donnais le chiffre dès l'ouverture de cette émission, hein, 75% des insectes volants. Donc, ça inclut aussi les abeilles.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, si ces insectes disparaissaient complètement, nous n'aurions quasiment plus de nourriture à manger, tout simplement.
Ouais.
Donc l'humanité disparaîtrait.
Donc il faut en prendre conscience. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est faite et qui tend à progresser?
Il y a une prise de conscience. On est en train effectivement de progresser là-dessus. D'une part, par le capital sympathie qu'a l'abeille.
Ouais.
Alors, est-ce que ça vient de Maya l'abeille? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient de la douceur du miel? Probablement également. Mais effectivement, il y a un capital sympathie. Et ce capital sympathie est en train de permettre de la compréhension aux gens de l'importance de la situation, de l'importance de ce que l'on réalise tous les jours. Voilà, lorsqu'on arrache une haie, bon, c'est pour avoir une vue plus dégagée sur l'horizon. Lorsqu'on comprend que cette haie, elle apportait de la nourriture aux abeilles, et donc maintenant qu'on l'a arrachée, elles n'ont plus à manger. Mmh. Ça nous fait réagir de façon différente. Voilà.
Mais vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé avec Biguard.
Oui,
et
voilà.
Vous allez sauver nos abeilles. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que Biguard? Est-ce qu'on parle de ruches connectées depuis le début de cette émission? Ça veut dire quoi exactement?
Alors, on parle de ruches connectées. Ça veut dire que déjà, on parle de technologie.
Oui.
Ça veut dire tout de suite que la technologie, elle a pour but, dans notre cas, d'aider effectivement à la sauvegarde des abeilles. La technologie en elle-même, aujourd'hui, n'est pas capable de sauver les abeilles. Ceux qui seront en capacité de sauver les abeilles, c'est les apiculteurs, les agriculteurs qui ont leurs pratiques culturales, quelque part les pouvoirs publics aussi, qui ont un rôle très important sur l'aménagement du territoire et les techniques utilisées pour la partie paysagère. Et ensuite, évidemment, le particulier qui, lui, va gérer son jardin, qui va acheter ses produits. Et s'il achète des produits qui ont été produits effectivement avec une certaine éthique vis-à-vis de l'environnement, eh bien quelque part il contribue aussi.
Ouais, c'est
nous,
ça.
La technologie, c'est une aide et c'est, je dirais, c'est une paire de lunettes. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui.
Ou des jumelles peut-être plutôt.
Des jumelles, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ce qui se passe. On est loin de tout ça. Même les apiculteurs, qui sont des experts dans leur domaine, ils savent conduire leur cheptel, puisque c'est des éleveurs. Ils savent conduire leur cheptel, bien entendu. C'est des experts, ils ont des techniques très particulières. Mais quand c'est qu'ils voient leur cheptel, justement, de compte tenu des distances dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a des apiculteurs professionnels qui ont des ruchers qui sont dans un rayon de 300 km
bien
autour
sûr.
De chez eux.
Ouais.
Donc lorsqu'ils se déplacent sur un rucher, ils ont déjà perdu la demi-journée, voire la journée complète. Voilà, sans compter le coût, hein, le carburant, etc. Donc ils ne vont pas voir leurs abeilles tous les jours. Donc ils vont faire des visites tous les 15 jours. Et en 15 jours, il peut se passer beaucoup de choses.
Bien sûr,
voilà.
Bien sûr. Ouais. Et la colonie peut être décimée en 15 jours,
exactement.
Voire beaucoup moins.
Exactement, et sachant également que les apiculteurs professionnels ont généralement plus de 150 ruches. Et si on veut en vivre correctement, parce que c'est quand même le but de tout un chacun, on va avoir 300 ruches, 500 ruches, certains ont 1000 ruches. Voilà, on va pas avoir une analyse humaine. On ne va pas être en capacité de mener une analyse humaine suffisamment fine sur toutes les ruches.
Ouais, c'est
voilà.
Ça, voilà.
Donc là, l'intérêt de la technologie, c'est d'aider. C'est, voilà, c'est
et
d'augmenter l'humain.
Ne pas remplacer l'apiculteur.
Absolument pas, parce que l'expertise, le savoir-faire, c'est l'apiculteur qui l'a, ce n'est pas la technologie. Donc nous, ce qu'on propose, c'est des capteurs à placer dans certaines ruches, pas forcément toutes, sous les ruches ou à proximité de ruches. L'idée, c'est de faire des mesures donc, qui sont factuelles, qui sont effectuées toutes les heures, transmises deux fois par jour, et qui vont donner toutes les variations de tendance, en fait, sans se déplacer.
D'accord.
Donc, l'apiculteur
des exemples. Par exemple, le poids des abeilles,
voilà.
Ça peut être un indicateur.
Alors, le poids de la ruche. Le poids de la ruche, c'est un indicateur pour tout simplement. Donc, on vulgarise un petit peu. Lorsque, dans l'environnement, il y a du nectar, donc des fleurs, eh bien, les abeilles, qui sont des bonnes travailleuses, vont envoyer les butineuses, elles vont récupérer le nectar et l'amener à la ruche et vont le transformer en miel. Donc ça veut dire qu'elles vont avoir un excédent de nourriture par rapport à leur consommation unitaire. Donc le poids va monter, tout simplement. Donc lorsqu'on a une tendance qui monte, et qu'il ne pleut pas, parce que sinon c'est la pluie, lorsqu'on a une tendance qui monte, eh bien ça veut dire que la nature est en capacité de fournir du nectar et que les abeilles sont en capacité d'aller le chercher. Voilà. Donc on a un couple, en fait, assez intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument également contextualiser ces mesures avec l'aspect météo.
C'est ça, voilà. Tout à fait.
Donc pour savoir si effectivement le fait que ce poids baisse, par exemple, ça veut dire qu'elles se nourrissent, tout simplement. Il n'y a pas mort d'homme, enfin mort d'insectes en l'occurrence. Ça veut dire que tout simplement elles se nourrissent. En hiver, au début du printemps, c'est tout à fait normal, ou dans certaines périodes où il n'y a pas de fleurs, c'est absolument normal. Mais par contre, si les conditions sont bonnes et que le poids continue à baisser, ça veut dire qu'il y a un problème.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Et donc là, on a d'autres types de mesures. Donc, on a par exemple la température interne de la ruche qui va nous donner. Alors c'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est très simple. Lorsqu'on a élevage, c'est-à-dire que la reine pond des œufs qui sont ensuite élevés, ça fait des larves et puis des abeilles, les abeilles sont capables de climatiser à 34 degrés, à plus ou moins 1 degré. C'est formidable quand même. Nous, on a besoin de gros groupes à l'extérieur avec des ventilateurs. Eux, les ventilateurs, ben, c'est les ailes. Et donc, Elles refroidissent s'il fait trop chaud en été, elles réchauffent s'il fait trop froid.
Fabuleux,
et elles maintiennent 34 degrés. Si les conditions météo sont difficiles, en fait, elles vont réduire la surface du couvain, on appelle ça comme ça, la zone où il y a l'élevage, elles vont le réduire naturellement pour être en capacité de maintenir ce 34 degrés. Si les conditions extérieures sont bonnes et qu'en même temps, elles trouvent de la nourriture, au contraire, la reine va pondre beaucoup plus. Et donc, on va se retrouver avec 40 000 abeilles dans une ruche. Donc, en mesurant cette température interne, on est capable de suivre, on va dire, est-ce que la ponte de la reine se passe correctement.
Tout à fait. C'est vraiment des indications qui sont précises et qui sont hyper importantes pour l'apiculteur. On les reçoit comment ? Sur nos smartphones ? Sur les smartphones ? Sur ordi ?
Voilà, alors ça, c'est le gros intérêt des objets connectés, c'est que toutes ces données, elles sont collectées automatiquement. L'apiculteur n'a rien à faire. Il ne fait qu'installer ces capteurs qui sont sans fil, sans configuration particulière. Il est pose aux bons endroits, on va dire. Les données ensuite remontent vers Internet et elles sont disponibles pour lui quand il veut, d'où il veut, avec son smartphone, avec sa tablette, avec son ordinateur. Il peut les partager avec les gens qui partagent son exploitation, avec des collègues également. Ça veut dire qu'on reste quand même ce qui fait aussi la particularité de l'apiculture et de bien d'autres métiers. On est quand même dans le partage. Voilà. Les apiculteurs, chacun a son exploitation et chacun gère ses emplacements. C'est quelque chose de très, très important. Mais à un moment, on se rejoint dans les syndicats, dans des associations ou tout simplement entre amis. Et on parle aussi de ces difficultés et comment tu t'en es sorti là-dessus. Voilà mon retour d'expérience. Et donc, d'avoir ces mesures-là, c'est un double levier. C'est-à-dire qu'en un levier instantané, on peut réagir pour intervenir, tout simplement, gérer son cheptel. On a un deuxième levier où, en fait, on va étudier son retour d'expérience. Et on va se dire, cette année, à tel endroit, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Et est-ce que j'aurais pu le détecter plus tôt ?
On va en reparler dans un petit instant. Juste avant de nous retrouver pour la seconde partie de cette émission, vous êtes apiculteur, Christian ?
Alors, je suis apiculteur amateur, on va par là. Mon père avait des ruches. Mon père avait des ruches. J'ai fait toute mon enfance et mon adolescence, effectivement, avec des ruches. Et maintenant, avec Bigward, nous avons plusieurs terrains d'expérimentation avec des partenaires.
Voilà. On va en parler dans un instant. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec Christian Lubat de Bigward. Bonjour Michel Dagra.
Bonjour.
Un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Michel, on apprend que vous êtes un défenseur des abeilles et même que vous êtes apiculteur.
Défenseur, parce qu'apiculteur, oui, bien sûr, oui. Très amateur. Enfin, quand même, je suis juge et partie dans cette émission parce que, étant impliqué moi-même dans l'élevage d'abeilles, et la récolte, la fabrication et la récolte de miel, tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent m'intéresse beaucoup. Mais justement, j'ai le sentiment que votre créneau correspond à un maillon sur une chaîne qui est très préoccupante aujourd'hui, puisque au point de départ, il y a cette pollution, ces pesticides, insecticides, ces néonicotinoïdes, je ne sais pas comment dire
ce terme. Néonicotinoïdes.
Voilà. On voit vous êtes entraîné, Christian.
Il y a une espèce de malheur initial, et puis vous êtes un peu sur cette chaîne, un maillon de mesure, d'analyse, de garde, d'éveil, etc. Mais avez-vous une relation professionnelle avec ceux qui travaillent, justement, pour, au point de départ, faire quelque chose d'un peu plus bio, d'un peu moins nocif, de telle façon que, avant d'essayer de lutter contre le malheur, enfin, si vous voulez, avant de jeter des bouées de sauvetage à la mer, il vaudrait mieux se préoccuper que de la survie du bateau qui ne se plante pas sur un rocher ou sur un iceberg.
Oui, traiter les causes plutôt que les conséquences.
Remonter aux causes, oui.
Voilà. Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, c'est dans notre stratégie, ça rentre complètement là-dedans. Par contre, il fallait commencer par quelque chose. Et les gens qui étaient déjà prêts à expérimenter, à s'équiper d'une technologie comme ça qui permettait de surveiller l'activité des abeilles, c'est les apiculteurs, parce que eux, ils sont dans les conséquences. Les causes, ils aimeraient bien les régler, mais aujourd'hui, il faut qu'ils vivent, qu'ils fassent survivre leurs abeilles, et c'est pas évident. C'est pas évident tous les jours. Donc, on a décidé de faire cet outil. Finalement, puisque c'est ça, c'est un outil, c'est pas un miracle, c'est juste un outil pour les apiculteurs en premier. Et alors, chose très intéressante, étant donné qu'on gardait en tête ce lien avec l'agriculture, eh bien, à partir du moment où on a su mettre des mesures, donc des choses qui étaient factuelles, on est capable de discuter avec des gens qui ne sont pas forcément convaincus par la cause des abeilles. Et alors évidemment, il y a des gens de très mauvaise foi, où on le sait, on en entend, il y a des gens qu'on ne convaincra jamais, il y a des gens qui sont tout à fait de bonne foi et qui n'avaient pas compris.
Qui voulaient des preuves, c'est ça.
Ou qui voulaient des preuves, parce qu'on dit tellement de choses et il y a de tous côtés des gens qui exagèrent. Ce n'est pas le cas sur les néonicotinoïdes. Il y a eu plusieurs études scientifiques et les produits vont être interdits. Mais voilà, maintenant qu'ils sont utilisés, on est obligé de laisser du temps aux agriculteurs pour avoir une phase de transition. Bon, très bien. Maintenant, la question qu'on a posé sur la table, c'est de dire, est-ce qu'on veut à chaque nouvelle molécule qui apporterait un bien-être, pas un bien-être physique, mais un bien-être au rendement agricole, est-ce qu'on veut à chaque fois le mettre en plein champ, attendre 10 ans, au bout de 10 ans dire, ça tue tout le monde, il nous faut 5 ans pour l'annuler. Il faudrait commencer peut-être dès le début par prendre ce maillon faible, qui est l'abeille peut-être, et faire des tests. Donc il y a des scientifiques qui s'intéressent énormément à ça. Mais c'est vrai qu'il faut quelque chose qui permette de déployer ça à grande échelle. Et notre outil, finalement, il va très bien pour ça, on peut déployer.
Combien de ruches sont connectées aujourd'hui France ?
Aujourd'hui, l'année dernière, nous avions dépassé les 1000 ruches connectées.
Pour la France ?
Pour la France et
en région.
Toute la France et on commence les phases d'exportation, notamment avec l'Italie qui est une de nos cibles et d'autres pays qui ont exactement les mêmes problématiques que nous, parce que nous ne trompons pas, l'abeille c'est pas un problème français, l'agriculture ce n'est pas un problème français, tout ceci est complètement mondial. La différence c'est le coût. Finalement, les coûts salariaux, les coûts des produits, d'un pays à l'autre, ça n'a pas le même impact. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans les pays qui sont riches, entre guillemets, les pays occidentaux, on peut se poser la question et on peut faire des démarches qui soient positives pour l'environnement. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des partenariats avec des agriculteurs.
Ils ont un rôle essentiel à jouer. Hein,
bien sûr. La première des choses, c'est qu'on entend parfois, et même en réunion avec des apiculteurs, des fois, vous savez, quand vous avez 40 ruches que vous venez visiter et que vous voyez toutes les abeilles qui sont mortes devant, l'apiculteur, il est d'une part triste et il est en colère. Et donc, pourquoi elles sont devant ? C'est parce qu'elles ont été empoisonnées. Voilà, là c'est pas un virus qui a fait ça, c'est pas le frelon asiatique. Ça c'est si elles sont couchées par terre, c'est qu'il a pris un insecticide en pleine journée. Donc il est en colère. Et donc on va relayer ce genre de choses et on va se dire tiens, les apiculteurs sont complètement opposés aux agriculteurs. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, j'ai dit 80-85% de ce que produisent les agriculteurs ont besoin de la pollinisation. Donc, ça veut dire que l'agriculteur a besoin des abeilles. J'en ai une bonne preuve, c'est qu'il y a des services de pollinisation, c'est-à-dire des agriculteurs qui payent des apiculteurs pour venir disposer des ruches à une certaine période de l'année pour avoir une bonne pollinisation de leur production. Alors, il faut savoir que colza semence, 80% de pouvoir germinatif en plus si la pollinisation est bien maîtrisée. Les fruitiers, tous les arbres fruitiers, si on n'a pas une pollinisation qui est dynamique, en poussant donc justement des abeilles aux bons endroits, eh bien, on va avoir des fruits de petit calibre, moins sucrés, etc. Et ça, c'est scientifiquement démontré que la pollinisation apporte donc justement une qualité génétique naturelle à la production.
Si on avait besoin de preuves, les voilà. Michel, une autre question.
Oui, je crois que, enfin, c'est peut-être idiot, mais enfin, c'est un réflexe affectif. Je crois qu'il serait intéressant d'imposer aux agriculteurs qui utilisent ces produits d'élever quelques ruches au coin de leur champ et de leur demander de produire du miel. On verrait bien, ils trouveraient bien le problème. Enfin, ça, c'est un peu un argument ad hominem.
Oui, oui, c'est toujours compliqué d'imposer quoi que ce soit. Mais déjà, le fait d'avoir, de partager, et ça, c'est des choses intéressantes. J'ai un autre exemple en Lot-et-Garonne, les vignerons de Buzet. Alors, certains de vos auditeurs, peut-être, connaissent ce vin.
Et quelques autres.
Mais donc, les vignerons de Buzet se sont engagés dans une voie entre le bio, parce qu'ils ont peu de vignobles bio, et le complètement, on va dire, traditionnel, alors qui n'est pas vraiment traditionnel, qui est tout simplement le plein pesticide. Voilà. Et alors pourquoi ils se sont mis dans cette voie-là? Mais pour se différencier. Parce qu'ils n'étaient pas... ils sont juste à côté du grand vignoble bordelais, ils sont juste au-dessus du grand vignoble d'Occitanie. Et donc, pour exister, il faut se différencier. Alors, se différencier, ils ont dit, ben, on va faire du développement durable. On va replanter des haies, on va introduire de la faune disparue, des chouettes qu'il y avait en Lot-et-Garonne et qui n'existaient plus quasiment, puisqu'on avait énormément arraché de biodiversité. On va arrêter de mettre la terre à nu systématiquement, parce que les ceps de vigne, c'est pas parce qu'il y a un peu d'herbe qui produisent des quintaux en moins. Hein. Voilà, il faut pas que ça soit recouvert quand même, mais bon, voilà. Et là-dessus, avec les apiculteurs locaux, donc c'est le syndicat L'Abeille Gasconne en Lot-et-Garonne, ils ont décidé de travailler ensemble, alors que la vigne n'a pas besoin, pour le coup, elle s'auto-pollinise, n'a pas besoin d'abeilles, mais ils ont dit, mais l'abeille, c'est un très bon marqueur de tous les efforts qu'on fait, et aujourd'hui, on fait des efforts, et les gens nous disent, ah oui, mais vous traitez de façon très importante, comme tous les viticulteurs lui disent. Non, justement, nous, on fait différemment, et on n'arrive pas à le montrer. Donc, ils ont installé 4 ruches au pied des vignes. Et ces 4 ruches, elles sont équipées de bigouardes. Et donc chaque année, donc on mesure en continu évidemment, un apiculteur produit du miel localement. Ouais, ouais. Et chaque année, on fait un bilan en analysant les mesures avec les jours où ils ont été obligés de traiter. Parce que vous savez qu'il y a des traitements en viticulture qui sont obligatoires et qui sont des insecticides contre la flavescence dorée. Et donc ils font 2 traitements qui font 2 nuits. Pour éviter que les abeilles soient impactées. Et il y a tout un tas de choses qui sont mises en place là-dessus. Et nous, on mesure l'activité des abeilles et on arrive à voir qu'effectivement, c'est compatible.
D'accord. Michel, une autre question. Vous aimeriez rentrer dans l'entreprise, dans la ruche de Christian?
Oui, c'est-à-dire que une ruche, c'est une merveille. Les insectes qui sont là-dedans, de la naissance à la mort, passent par tout un tas de fonctions. Il y a une sorte de, comment on appelle ça, de polyvalence. Du métier de l'abeille. Ça commence nettoyeuse et ça finit butineuse, en passant par cirière, par nourricière, par, je dis ça dans le désordre peut-être, par gardienne. Est-ce qu'il y a un impact de cette diversité, de cette organisation pluridisciplinaire, en quelque sorte, dans votre entreprise, entre vous? Est-ce que ça s'impacte, ça? Est-ce qu'il y a un effort d'harmonie entre les bêtes que vous soutenez et le management que vous pratiquez?
Alors, je dirais que il y a effectivement quelque chose qui s'y rapporte, mais c'est intérieur finalement. En fait, nous sommes une très petite entreprise et nous fonctionnons depuis le début. Alors maintenant, on met des mots, on dit en mode start-up, donc ça veut dire que finalement tout est remis en question, tout évolue très vite, il n'y a pas énormément de niveau hiérarchique, et on se donne les moyens de dire, ben, si effectivement n'importe qui a une bonne idée, eh bien on le teste et pourquoi pas. Voilà. Maintenant, les abeilles sont bien plus disciplinées que nous, et c'est vrai que elles, c'est naturel, on va dire, de passer d'un stade de l'élevage et de finir leur vie à un butinage. Nous, je dirais de manière générale, les humains, c'est pas si naturel. On a des gens qui sont plus doués pour la partie commerciale, on a des gens qui sont plus doués pour la partie recherche. Ce qui est certain, c'est qu'avec ce projet Abeille, avec Bigward, eh bien, des ingénieurs qui avaient plutôt l'habitude de travailler les ordinateurs se sont retrouvés avec des vareuses. Donc c'est les systèmes de protection et ont pris plaisir finalement à intervenir sur des ruches.
À Cannes, sur les étals des fruits et légumes, l'étiquette pollinisée par les abeilles. C'est les bons fruits.
C'est voilà. Oui, tout à fait. Ça serait une chose intéressante, ainsi que améliorer les étiquetages de miel dans les supermarchés.
Exactement. Oui.
Merci beaucoup, Bigward. On vous trouve facilement sur le net, Christian.
Oui bigward.fr. Donc pour toutes les informations.
Merci à vous, Michel. Merci pour ce que vous faites pour les abeilles et pour nous, tout simplement.
Avec plaisir.
Vous souhaitez nous joindre, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.